Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
C'est reparti pour une interview hebdomadaire. On a pas mal de choses à se dire cette semaine. On va parler des catéchistes, puisque ce jeudi a eu lieu la première halte spi des catéchistes, la première de l'année pastorale. Il y en a trois chaque année. Cette halte spi à laquelle vous avez participé, vous avez rencontré tous ces catéchistes qui œuvrent toute l'année dans le diocèse et vous leur avez parlé du pape, je crois, pas seulement.
Alors, pas seulement, mais en effet, j'ai participé à cette rencontre, comme tous les ans, trois fois par an, et c'est un bon moment de rencontre qui me donne l'occasion de les remercier pour leur engagement et de les conforter dans cette mission. Sœur Eugénie, la responsable du service de la catéchèse, m'avait demandé de réagir un petit peu et de prolonger l'homélie que le pape a prononcée à Rome pendant le jubilé des catéchistes il y a quelques jours, auquel une bonne délégation du diocèse a participé. Et donc j'ai retenu trois idées que j'ai développées en les situant dans la réforme du diocèse qui est en cours et la mission de la catéchèse dans le cadre de cette réforme et de l'annonce de l'évangile finalement, hein, puisque c'est cela l'objectif de la réforme, c'est de nous mettre en état de plus et mieux toujours annoncer l'évangile. Et les catéchistes ont une place toute particulière et privilégiée, si je peux parler comme ça, dans cette mission. Et donc, en retenant le pape commenter l'évangile du pauvre Lazare qui se meurt à la porte du riche et qui se retrouve ensuite dans le sein d'Abraham. Et voilà, j'ai retenu trois idées de cette homélie pour développer ce que j'avais envie de leur partager. Et notamment le fait que les catéchistes sont des gens, des serviteurs de la parole, mais que la parole, ils l'annoncent par leur propre vie. Et donc, que ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient des disciples vraiment du Christ qui fassent envie. Ensuite, on les aide, on les équipe, on leur donne les moyens de se former, de transmettre les choses quand il y a des choses à transmettre par un certain enseignement. Mais que c'est pas ça qui est premier. Il ne s'agit pas de déverser une connaissance dans la tête des enfants, mais d'abord de transmettre le goût du Christ et l'attachement au Christ. Voilà. Et pour ça, il faut des personnes, le pape dit, on ne donne pas ce que l'on n'a pas. Et donc, qu'ils soient elles-mêmes attachées à cette parole de Dieu et attachées au Christ et qu'elles en vivent. Et que c'est ce témoignage-là qui fera d'elles de bons catéchistes d'abord, ensuite le reste, on aide.
Comment le déploiement du catéchisme dans le diocèse, dans les paroisses, comment il s'inscrit dans la réorganisation des paroisses justement, puisque vous avez expliqué plusieurs fois ce micro, mais bon, ça fait du bien de le réentendre sans doute, entre ces pôles administratifs et pastoraux des paroisses et puis cette catéchèse de proximité, comment on coordonne les deux?
Alors le centre, le cœur, pastoral et administratif de la paroisse, qui est le lieu où il y a un secrétariat, le cas échéant, en tout cas le curé, les salles de réunion, etc. Bon. Et ensuite, le fait que la paroisse, elle est composée d'autant de communautés de proximité que possible, c'est-à-dire des communautés autour d'une église, autour d'une, peut-être même d'un groupe de famille qui constitue une fraternité, que sais-je. Et que la catéchèse, vraiment, je souhaite qu'elle soit proposée au plus près de là où les gens habitent. S'il y a une personne qui accepte de faire le caté et un groupe de 4 ou 5 enfants qui est là, sur ce lieu-là, eh bien, il faut à tout prix permettre que, en effet, la catéchèse soit organisée au plus près de ce lieu-là.
Il ne faut pas demander aux enfants d'aller là où est le cœur.
Il ne faut pas centraliser, ou en tout cas, quand il n'y a pas moyen de faire autrement, évidemment, il faut le faire comme ça.
Mais le plus possible.
Quand on peut, si c'est possible, il faut dire oui à l'organisation de la catéchèse au plus près de là où les gens habitent. Et ensuite, tous les mois et demi, que toutes les équipes de caté se retrouvent pour une célébration, marquer l'entrée en avant, marquer l'entrée en carême, fêter Noël, fêter Pâques, enfin que sais-je, avec l'ensemble des groupes de caté pour que tout le monde se sente bien membre de la même famille, de la même paroisse. La paroisse, c'est une famille. Mais la famille, elle a plusieurs membres, et ses membres, ils ont le droit de vivre là où ils vivent. Parce que si on centralise, eh bien, on perd beaucoup, beaucoup d'énergie et de gens en chemin, sans doute. Quand c'est possible, il faut privilégier ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je leur ai dit ce que j'avais déjà partagé, c'est que, à mon sens, on n'est pas très bon pour la catéchèse dans le diocèse. En termes de statistiques, du nombre d'enfants catéchisés dans le diocèse, ça ne va pas. Il y a beaucoup plus d'enfants susceptibles de l'être, potentiellement qui pourraient l'être, par rapport au nombre réel d'enfants catéchisés dans nos paroisses. Donc il faut analyser pourquoi. Une des raisons que j'identifie, mais ce n'est pas la seule évidemment, mais je constate que là où les prêtres, les curés, enfin les prêtres des paroisses s'investissent vraiment dans la catéchèse personnellement, eh bien, il y a plus d'enfants catéchisés.
Ça, vous l'avez constaté, c'est un fait.
Je l'ai constaté. Quand le prêtre est vraiment engagé dans la catéchèse, il y a plus d'enfants au caté. Donc, il faut que les prêtres soutiennent leurs catéchistes et qu'eux-mêmes s'engagent, animent les célébrations communes de temps en temps. S'ils peuvent accompagner une équipe de caté, c'est très bien, mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais en tout cas, qu'ils soient bien présents et en soutien des catéchistes. Mmh. Et ensuite, pour vraiment relancer une dynamique en matière de catéchèse. J'ai dit aussi que dans la nouvelle gouvernance du diocèse, dans la réforme en cours, là, j'avais l'intention d'organiser tous les ans une journée, non seulement de rencontres diocésaines, conviviales, fraternelles, ce qui est nécessaire et qui fait du bien, et ceci n'exclut pas cela, mais aussi d'en faire une journée de réflexion et de travail selon la façon synodale que l'Église expérimente et redécouvre, qui se saisissent de l'une ou l'autre question pastorale. Alors bien sûr, on peut faire travailler tel ou tel conseil de l'évêque, le conseil presbytéral, le conseil pastoral diocésain, bon. Mais qu'une journée diocésaine de type micro-synode diocésain se saisisse d'une question pastorale, et j'ai indiqué ce matin, au catéchiste jeudi, que la catéchèse était pour moi parmi les sujets prioritaires à examiner dans le cadre d'une telle journée synodale diocésaine pour mettre en commun les affaires, identifier la problématique, se donner de bonnes idées et faire que ce ne soit pas une question simplement de spécialistes engagés en catéchèse, mais réellement une question de tous les diocésains qui s'intéressent à ce sujet.
C'est-à-dire que vous comptez sur l'expérience ou l'expertise de ces catéchistes qui sont finalement missionnaires sur le terrain pour remonter jusqu'au diocèse et peut-être aider à donner une dynamique à la pastorale diocésaine.
On peut prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est une question qui concerne toute l'Église et ses composantes,
oui.
Que ce soit les pasteurs, que ce soit les catéchistes, que ce soit les diocésains, les paroissiens lambda, et il faut donc, grâce à une journée de ce type, un apport le matin, puis des réflexions en atelier, puis etc., etc., qu'au terme de la journée, je puisse disposer avec mes collaborateurs concernés par la catéchèse au niveau de son organisation diocésaine, disposer de très bonnes idées, de nouvelles orientations, etc., sur la base d'une sensibilisation acquise nouvelle par l'ensemble du diocèse sur cette question de la catéchèse pour relancer une proposition catéchétique et faire que de nouveau des parents nous confient leurs enfants pour la catéchèse et qu'on sache à peu près comment s'organiser pour la rendre possible et effective et qu'elle soit proposée largement.
Et quid du lien entre le caté qui est proposé par la paroisse et le caté dans les écoles catholiques?
Eh bien justement, ce matin, le directeur adjoint de l'enseignement catholique, le directeur diocésain de l'enseignement catholique était présent à la journée avec les catéchistes et ça a été très très apprécié pour précisément faire que tout le monde travaille ensemble et que l'enseignement catholique ne soit pas à l'écart de ce que réfléchissent les paroisses en termes de catéchèse et réciproquement.
Merci pour ce point sur la catéchèse, on a bien compris, il y a un cœur administratif et pastoral de chaque paroisse.
Un cœur pastoral et administratif.
Et administratif.
D'abord pastoral et administratif, parce que l'administration est au service de la pastorale.
Mais en tous les cas, ce cœur n'empêche pas la catéchèse, qui est vraiment un service de proximité le plus possible.
Elle la soutient, elle la coordonne, elle l'anime, et voilà.
Merci Monseigneur. Alors on passe à un deuxième sujet. Vous savez que le mois d'octobre, c'est le mois octobre rose où il y a une grande campagne de sensibilisation, notamment pour de dépistage pour le cancer du sein. Il y a quelques jours ou quelques semaines, vous avez présidé le pèlerinage LCE, Lourdes Cancer Espérance. À cette occasion, vous vous êtes exprimé longuement au cours d'une conférence sur le sens de la maladie, du cancer, mais de la maladie en général. Au fond, j'ai envie de profiter de cette interview hebdomadaire pour vous demander pourquoi la maladie, Monseigneur ? Pourquoi la maladie dans nos vies ?
J'ai commencé la conférence en question en disant que, d'abord, je l'abordais avec une infinie humilité, et qu'il fallait le faire comme ça, on n'est pas des donneurs de leçons, surtout quand on va bien. J'ai donné un petit témoignage personnel. Mon père est décédé d'un cancer en 2000, il avait 60 ans. Et dans la foulée, ma mère était évidemment très 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 malheureuse de la disparition de mon père. Et un paroissien bien intentionné lui a dit « Mais enfin, arrête de pleurer maintenant, tu devrais te réjouir parce qu'il est heureux et voilà, et tout va bien ». Alors j'ai expliqué qu'après avoir failli lui arracher les yeux à cet homme, elle lui a dit que c'était extrêmement difficile, extrêmement dur, et que bien sûr elle a la foi et l'espérance, mais enfin ça fait pas tout. Et ce monsieur a continué en lui disant oui, je comprends que la solitude ce soit difficile. Et elle lui a répondu, c'est pas la solitude qui est difficile, c'est son absence à lui. La solitude, c'est pas le problème. Voilà. Et j'ai dit, il faut qu'on soit absolument convaincu que Dieu ne veut pas la mort, il ne veut pas la maladie, il ne veut pas le mal, que la mort, la maladie ne sont pas un mal nécessaire pour éprouver notre foi et nous faire nous tourner vers Dieu. On est mortel parce qu'on est vivant, c'est comme ça, mais qu'il y a en nous un désir d'autre chose et un désir de vie que Dieu a semé en l'homme en le créant à son image et à sa ressemblance, en citant saint Augustin, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Il y a en nous des pierres d'attente de ce que Dieu est et nous offre de partager avec lui pour l'éternité. La vie est la perfection, une vie où le mal, le péché n'a plus de prise en nous. On est fait pour ça. Et ce qui vient entraver ça est une anomalie. Donc Dieu ne veut pas la mort, il ne veut pas la maladie. Premier point, très important de tenir ça. Ensuite, puisque la maladie est là, que le mal est là, que la mort est là, eh bien, dans la foi, on peut en faire une occasion pour devenir meilleur, pour creuser notre espérance, notre foi, notre confiance en Dieu, notre attention aux autres qui peinent et qui souffrent, si nous-mêmes, on n'est pas immédiatement concernés. C'est une occasion à saisir, mais ce n'est pas un mal nécessaire. Donc, c'est très important de convertir, pour une part, cette approche où Dieu aurait disposé de la maladie et du mal pour nous faire la leçon, en quelque sorte. Ce n'est pas comme ça. Nous pouvons ensuite en faire une occasion d'eux et donner du sens que la chose n'a pas en soi. Voilà. Et j'ai mentionné un livre dont j'ai recommandé la lecture d'une pasteur protestante qui s'appelle Marion Muller-Collard. Un livre formidable qui s'intitule « L'autre Dieu », au cours duquel elle exprime des choses très très importantes, comment dans sa propre expérience de la maladie, elle a failli perdre son premier enfant, elle a converti son image de Dieu, le Dieu archaïque qui est présent dans la conscience de tous les êtres humains. Tous les êtres humains ont la capacité d'avoir l'intuition de Dieu, mais ce Dieu-là, il faut le transformer et quelque part le chasser pour laisser le Dieu de la révélation biblique et chrétienne le remplacer. Et que pour ça, il faut se départir de nos images préconçues de Dieu, et que l'épreuve de la maladie peut être l'occasion de faire cette opération-là.
Voilà. Vous voulez dire que dans la souffrance, on trouve Dieu ?
C'est pas systématique pour certains, elle est même un obstacle à croire en lui.
Si
Dieu existait, il ne permettrait pas ça. Quand on prie pour demander la guérison d'un enfant malade, c'est une prière légitime, mais malheureusement,
Mais ça marche pas forcément.
Ça marche pas toujours. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Si Dieu existait, il permettrait pas ça. Donc, il faut écarter ce Dieu-là qui nous rétribuerait en fonction de nos mérites, J'ai pas mérité ça, cet enfant, il n'a pas mérité ça. Bon, pour accueillir le vrai Dieu, et je disais que il m'est arrivé, lors d'obsèques particulièrement difficiles, j'avais en tête celle d'un jeune mort à 14 ans de mucoviscidose, de donner seulement à voir Dieu qui pleure devant le tombeau de son ami Lazare, pourtant Jésus à la fois. Il sait ce que Dieu va faire pour Lazare et pour ses sœurs, mais et pourtant il pleure, il se laisse toucher par cette immense peine, et je donne cette image-là à contempler de Dieu qui est à nos côtés, qui ne fait pas de grands discours pour donner des raisons et des explications à ce qui se passe, mais qui simplement est, pleure avec nous, compatit avec nous, chemine avec nous pour nous ouvrir à l'espérance et à la promesse de la vie éternelle.
Merci beaucoup, Mgr Mika. On arrive au terme de cet entretien. On vous retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est le lancement de notre pèlerinage, le pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Voilà, on vous retrouvera, bien sûr. Ça démarre avec les enfants, jeudi 16 octobre, et puis beaucoup d'autres choses dont on reparlera la semaine prochaine.
Ce sera avec plaisir. Et dans le cadre de cette année jubilaire, ce sera le dernier des 5 rendez-vous dans les sanctuaires Mario du diocèse. Et je suis très, très heureux d'y attendre tous nos frères et sœurs diocésains.
Merci beaucoup, Monseigneur.